Alors, nous reprenons là où nous avons arrêté, après la longue, longue parenthèse que j'avais ouverte sur l'antijudaïsme et finalement l'antisémitisme en milieu chrétien, après avoir été obligé de parler de la Shoah et même de ce qu'il y avait parfois de plus horrible dans la Shoah pour mieux comprendre la genèse spirituelle de ce qui est à l'œuvre dans cet événement. Après avoir dit aussi que l'Église, après la guerre, a commencé peu à peu à prendre conscience, pour en prendre pleinement conscience, comme elle l'a exprimé lors du jubilé, qu'il y a une responsabilité chrétienne, indirecte, pas directe, mais indirecte, du fait de l'absence des réactions adéquates au moment où l'iniquité vis-à-vis de nos frères aînés a commencé à grandir. C'est-à-dire, on n'a pas vu que c'était en fait terriblement antichrétien, pour ne pas dire justement antichrist. Edith Stein n'hésite pas à parler du nazisme comme un phénomène de l'antichrist. Donc voilà, on a parlé de tout cela. Je n'ai pas parlé, et on n'aura pas le temps d'en parler, je ne mets absolument pas Pie XII dans cet aspect-là. Hein. Les calomnies dont il a été abreuvé après sa mort, surtout à partir des années 60, dont peu à peu, très laborieusement, on revient maintenant. On commence à voir ce qui était sous-jacent. Et la vérité commence à se faire. Donc, il n'est pas question, en tout cas pour ma part et ici, de confirmer toutes ces accusations contre Pie XII, qui sont absolument nulles et non avenues, puisqu'il a fait énormément pour les Juifs. On pourra toujours discuter sur l'opportunité ou non de ne pas avoir parlé à cette occasion-là, ici ou là. Je peux répondre à des questions, mais ce que je tiens à dire quand même ici, c'est que sa sainteté, son intégrité, ne sont absolument pas en cause. Voilà. Et donc j'espère que les travaux faits maintenant dans les archives du Vatican vont peu à peu révéler de plus en plus cela. Nous revenons maintenant à l'Épître aux Romains, chapitre 11. Et nous passons directement au verset 11, où Paul repose encore une fois la question. Je demande donc, serait-ce pour une vraie chute qu'ils ont bronché ? Le terme bronché ici pourrait se traduire aussi par trébucher. Donc Paul ne nie pas du tout qu'il y a un endurcissement et que l'endurcissement est négatif, bien sûr. Il y a une négativité dans cet endurcissement. Donc ils ont trébuché, ils ont fait un faux pas. Alors il se pose la question, est-ce donc pour une chute définitive? Alors il répond avec la même fermeté qu'au début du chapitre, certes non, mais leur faux pas a procuré le salut aux païens, afin que leur propre jalousie en fût excitée. Qu'est-ce à dire? Ils ont donc trébuché, mais il semble que il ne s'agit pas de dire que ce faux pas est quelque chose de bon. Ce qui est négatif reste négatif. C'est un endurcissement. C'est cause d'un schisme dans l'assemblée messianique d'Israël. Mais, comme si souvent, Dieu d'un mal peut tirer un bien plus grand. Il passe par les détours que nous lui imposons. Et donc voilà que leur faux pas a procuré le salut aux païens. Alors effectivement, on y voit quelque chose de... On y voit même une confirmation historique dans les Actes des Apôtres. Au chapitre 13, on voit Paul dans la synagogue d'Antioche. Et alors, il prêche l'évangile pour les Juifs, mais les Juifs se rebellent, ils se révoltent. Alors il dit, c'était à vous qu'était destinée la bonne nouvelle, vous n'en voulez pas. Eh bien, nous allons maintenant nous tourner vers les païens. Tant pis pour vous, c'est à vous que c'était destiné d'abord. Vous n'en voulez pas, les païens, eux, vont accueillir cette bonne nouvelle. Et de fait, les païens l'accueillent avec joie. et se font baptiser et reçoivent l'effusion de l'Esprit. Donc, mystérieusement, la résistance du peuple d'Israël ouvre, mystérieusement, toujours en vertu de cette miséricorde infinie de Dieu qui passe à travers nos manques, nos péchés, nos endurcissements, eh bien, voilà que les païens deviennent bénéficiaires de la bonne nouvelle. Alors, que veut dire